Chapitre 12. La flamme des lampes avait baissé. Le feu s'était éteint. La grande chambre demeura dans une demi-obscurité. Claire, clouée à la même place, debout devant la haute cheminée, chercha à rassembler ses idées. Elle était sortie triomphante de la lutte. Elle se sentait cependant brisée, comme si elle avait été vaincue. Une torpeur pesante l'accablait. Sa tête lui paraissait si lourde qu'elle dut la soutenir avec sa main. Elle eut dans les oreilles des tintements qui l'assourdirent. Et, devant ses yeux troublés, tout sembla tourner avec une affreuse rapidité. Son cœur lui monta aux lèvres, une sueur glacée perla à ses tempes. Et elle resta égarée, inerte, souffrant horriblement, se sentant défaillir et n'ayant ni la force de bouger, ni la volonté d'appeler. Elle se laissa tomber sur sa chaise longue, mais elle dut se relever aussitôt. Des douleurs violentes tiraient les muscles de ses jambes et elle ne put se tenir immobile. Il fallut qu'elle marchât de long en large dans la chambre, malgré la lourdeur de sa tête qui lui semblait enflée et vide. Au-dessus du sourcil gauche, elle éprouvait une souffrance aiguë, comme si on lui avait enfoncé un clou dans le front. Une fièvre horrible faisait battre ses artères. Et, courbée en deux, gémissant tant elle avait de mal, elle marchait dans la chambre, ressassant dans son cerveau troublé les mêmes idées obsédantes et insupportables. Éveillée, elle était en proie à une sorte de cauchemar, et elle allait, marmottant maintenant des paroles confuses, entrecoupées par un claquement de dents terrible. Elle souffrit ainsi pendant 2 heures, sombre, entêtée, ne voulant pas appeler, s'imaginant que si elle ouvrait seulement sa porte, son mari croirait qu'elle demandait grâce et reviendrait. Confiante cependant dans sa loyauté, elle n'avait même pas tourné la clé dans la serrure, ni poussé le verrou. Triste conquête à faire, hélas, et qui eût épouvanté Philippe, car elle avait tant changé en si peu de temps, sous l'influence de la fièvre qui la dévorait, que le seul sentiment qu'elle eût pu inspirer eût été la pitié. Les premières lueurs de l'aube la trouvèrent marchant toujours dans sa chambre pour tromper par le mouvement les douleurs grandissantes de ses jambes. Elle se traînait, très pâle, les yeux éteints, les deux côtés du front maintenant pris et martelés. Elle n'en pouvait plus. Elle regarda un instant le ciel qui devenait rose. Elle voulut ouvrir la fenêtre, espérant que l'air pur du matin la rafraîchirait et la calmerait. Sa main défaillante ne put tourner la crémone, et, poussant un cri, elle tomba évanouie sur le tapis. Vers 9 heures, Brigitte, en approchant de la porte à pas de loup pour écouter si sa maîtresse dormait encore, entendit un gémissement. La fidèle servante eut peur, et, sans hésiter, elle entra. Claire, étendue à la même place où elle était tombée, gisait sans mouvement. Elle parlait tout haut d'une voix inintelligible. Son visage était rouge et ses pieds glacés. Brigitte, en un tour de main, sans se demander comment Madame d'Herblay se trouvait ainsi par terre et toute vêtue, l'enleva comme une plume, la déshabilla, la coucha ainsi qu'un enfant, et, l'en voyant calmée par l'exquise sensation de bien-être que lui avait procuré la fraîcheur des draps, elle courut chercher Philippe. Celui-ci s'habillait dans sa chambre. D'un coup d'œil, la jurassienne vit le lit défait, lut la tristesse sur le visage de son maître, et prenant près de l'oreiller un mouchoir humide de larmes, elle hocha tristement la tête. « Ah, monsieur Philippe, dit-elle, quel malheur! Voilà que vous avez pleuré, et elle !» Le maître de forge devint livide. Il trembla. L'idée lui vint que Claire s'était livrée à quelque acte de désespoir et qu'elle était morte. « Eh bien » interrogea-t-il avec un geste d'effrayante angoisse. Brigitte comprit sa pensée. « Non, dit-elle, mais si malade !» Philippe n'entendit pas un mot de plus. Sans prendre le temps de mettre sa redingote, courant comme un fou, il s'était dirigé vers la chambre de Claire. Sur le tapis, la robe blanche, les jupons froissés, les petits souliers à talons cambrés et le corset de satin blanc parfumé étaient jetés en désordre. Pourpre, les yeux brillants sur leurs paupières demi-levées, Claire était étendue dans le grand lit à colonnes. Grave, tenant leur lance, les guerriers de la tapisserie semblaient veiller sur elle. Philippe put s'approcher. Elle ne le reconnut pas. Elle souriait doucement et ses lèvres décolorées laissaient voir ses dents blanches. Il lui prit la main et la trouva brûlante. Un engourdissement profond succédait à l'agitation incessante de la nuit. Philippe fut épouvanté. Il écrivit promptement un mot pour le meilleur médecin de Besançon qu'il envoya chercher en voiture. En même temps, il faisait prévenir à Beaulieu. Il s'installa au chevet de Claire, plongé dans de désolantes pensées. Allait-elle donc mourir et tout était-il fini? Elle restait immobile, les yeux ouverts maintenant et louches. Une contraction douloureuse semblait forcer ses regards à se croiser. Elle fronçait les sourcils et, de temps en temps, portait la main à sa nuque en gémissant. Elle souffrait horriblement, c'était visible. Et le délire s'emparait d'elle plus complètement de minute en minute. Toutes les pensées de rancune du mari tombèrent devant ce triste spectacle. Superstitieux pour la première fois de sa vie, Philippe pensa que, si Claire surmontait son mal, ce serait un signe qu'il devait, lui et elle, finir par être heureux. Dès lors, il n'eut plus qu'une idée, la sauver. Il l'adorait encore follement, malgré ce qu'elle lui avait fait souffrir, à cause de cela peut-être. Philippe passa, assis au pied de ce lit, deux des heures les plus cruelles de sa vie, qui avait cependant déjà connu beaucoup d'épreuves. L'arrivée de Madame de Beaulieu et d'Octave fut pour lui un immense soulagement. Il se sentit déchargé d'une partie de sa responsabilité. La marquise, stupéfaite et épouvantée, fut heureusement silencieuse. Elle ne poussa pas de cris violents, ne versa pas de torrents de larmes et n'invoqua pas le ciel. Elle interrogea discrètement son gendre, prescrivit quelques soins élémentaires et, pâle, grave, resta auprès de sa fille qui ne se doutait pas de sa présence. Octave, bouillant d'impatience et d'inquiétude, avait pris un cheval et était parti à fond de train au-devant du médecin. Vers midi, celui-ci arriva. C'était un homme jeune encore, ancien interne des hôpitaux, très au courant des progrès de la thérapeutique et parfaitement en situation de formuler un diagnostic sérieux. Il n'eut d'ailleurs pas besoin de clairvoyance pour deviner la maladie. Elle s'annonçait d'elle-même par le délire, par les douleurs à la nuque et dans le front, par la contracture bilatérale. Il interrogea le pouls et constata 120 pulsations. Le thermomètre, placé sous l'aisselle, accusa 40 degrés. La fièvre était d'une extrême intensité. Le médecin hocha la tête et murmura ces mots « très sérieux ». Et comme la mère, le frère et le mari l'interrogeaient anxieusement du regard, il ajouta « méningite ». Et se penchant vers la blanche poitrine de Claire, dans laquelle une respiration haletante sifflait douloureusement, il écouta longuement et soigneusement. Puis, se relevant, quelques troubles au cœur, conséquence d'un état nerveux fort grave. Il faudrait envoyer immédiatement chercher 1200 sus et de la glace. Suzanne, qui écoutait du seuil de la chambre, fit un signe à Brigitte et la servante partit en courant. L'aimable enfant, depuis 2 heures, attendait dans le salon, tremblante, agitée, soupçonnant un événement inexplicable et n'osant pas entrer. Elle se glissa auprès du lit, ne parlant pas pour qu'on n'eût pas l'idée de l'éloigner, retenant son souffle et regardant avec terreur le visage rouge et les lèvres pâles de Claire. Il lui sembla qu'on étouffait dans cette grande chambre. Et, sans rien demander, guidée par cet instinct qui fait de toutes les femmes d'adorables gardes-malades, elle alla sur la pointe du pied ouvrir la fenêtre. Le médecin la regarda du coin de l'œil, sourit et dit « Bien !» Philippe, qui n'avait même pas aperçu sa sœur tant il était absorbé, se tourna vers elle avec des yeux attendris et, ne pouvant se retenir, il lui tendit les bras en fondant en larmes. Les nerfs du pauvre garçon étaient trop tendus depuis 24 heures. Suzanne mêla ses larmes à celles de son frère et, se penchant sur son épaule, « Va, ne crains rien, » murmura-t-elle. « Entre nous deux, il ne peut rien lui arriver. Nous la sauverons. » Mais si Claire pouvait être sauvée, ce ne devait pas être par Suzanne. Philippe demanda à sa sœur, comme un grand sacrifice, de consentir à retourner à son couvent. Le maître de forge se défiait du délire de la jeune femme. Elle parlait avec une affreuse animation et sans cesse le nom du duc de Bligny revenait sur ses lèvres. Elle l'appelait avec rage, l'accablant de reproches et montrant à découvert la cruelle plaie que l'abandon de son fiancé lui avait faite au cœur. Philippe aussi lui apparaissait dans ses hallucinations, mais toujours sous une forme menaçante. Il venait, armé, pour la frapper après avoir tué le duc. Elle lui voyait du sang aux mains, et elle le suppliait de l'envoyer rejoindre celui qu'elle aimait. Si Philippe, muet et immobile, n'eût écouté ces paroles de démence, au moins il voulut que Suzanne les ignorât. Il eut assez de confiance dans l'avenir pour épargner à sa sœur la connaissance de son malheur. Il jugea que ce présent douloureux s'effacerait un jour comme un mauvais rêve. Il ne devait donc pas s'élever l'ombre d'un pénible souvenir entre Suzanne et Claire. Suzanne, pleurant amèrement, mais obéissant comme toujours aux ordres de son frère, partit pour Besançon sous la conduite de la fidèle Brigitte. Et Philippe resta seul dans sa maison, en possession complète de la malade adorée. La marquise, dès le premier instant, en voyant avec quelle décision, quelle sagacité et quelle attention de tous les instants son gendre combattait la maladie, le laissa libre d'agir et se borna à l'assister de sa présence. Elle passait toutes ses journées dans la chambre de sa fille. Le soir venu, Philippe s'installait dans un fauteuil auprès du lit et, dans la demi-clarté d'une lampe placée à l'écart, il veillait. Le délire n'avait pas cessé. Vainement, le mari avait vu, en pâlissant, le sang de Claire couler goutte à goutte le long de son cou charmant, traçant un sillon rougeâtre sur sa peau blanche. La folie qui s'était emparée de ce pauvre cerveau affaibli avait continué à le troubler. Les jours et les nuits se passaient, la fièvre continuait, étendant ses ravages. Le visage de la jeune femme s'était amaigri, ses dents faisaient saillie sous ses joues creuses. Les membres, sans cesse en mouvement, frottaient douloureusement contre les plis du drap. Et en murmure de paroles indistinctes, tant la faiblesse était devenue grande, se faisait entendre dans l'ombre des rideaux. Une seule pensée lucide persistait dans le cerveau de Claire. Elle avait la conscience que, pendant qu'elle était étendue là, Athénaïs se mariait. Par une sorte de double vue, le jour même où sa rivale gravit triomphalement les marches de la Madeleine, couverte de fleurs par la magnificence de M. Moulinet, à l'heure exacte où la foule entrait dans l'église sur les pas des mariés, Claire eut comme un réveil. Une lueur de raison passa dans ses yeux, elle se souleva, et d'une voix très nette, elle dit « C'est en ce moment qu'il se marie, et moi, je vais mourir !» La marquise, qui s'était approchée, essaya de lui parler, de la tromper. Elle ne voulut rien entendre. Son délire l'avait reprise. Elle entra dans un accès terrible, criant, se tordant les bras, les lèvres brûlées par la fièvre et la sueur coulant dans ses beaux cheveux emmêlés. Philippe, épouvanté, envoya chercher le médecin qui ne devait venir que le soir. Celui-ci constata une élévation nouvelle de la température du corps. Les artères, comme des conduits où la vapeur est surchauffée, étaient près d'éclater. Encore un degré, et c'était la fin. Cette journée-là fut horrible. Philippe attendit, dans une angoisse mortelle, l'issue de la crise. Il sentait que sa vie se décidait pendant ces heures interminables. Dans sa tête, brisée par la fatigue et le chagrin, sans cesse cette pensée tournait, impérieuse comme un arrêt. Si elle vit, nous finirons par être heureux. Il y croyait et il aurait volontiers donné de sa vie à lui pour prolonger celle de la mourante. Le soir était enfin venu et le calme passager que la nuit apportait habituellement à Claire ne s'était pas produit. Les sourcils froncés, la mâchoire serrée, appelant toujours le duc avec des accents déchirants, la pauvre femme était étendue dans son lit en désordre. Philippe s'était levé et se penchait vers elle, croyant qu'elle ne le voyait pas. Les yeux de la malade s'ouvrirent et, pleins d'horreur, se fixèrent sur lui. Elle fit un effort pour lever les bras et, d'une voix sourde, « Vous l'avez tué, » dit-elle, « qu'attendez-vous donc pour me tuer moi-même ?» Philippe, le cœur déchiré en se voyant si cruellement méconnu, épuisé par tant d'efforts, devint en un instant faible comme un enfant. Il appuya son front aux voies sculptées du grand lit et se laissa aller à pleurer amèrement. Lentement, ses larmes tombèrent goutte à goutte sur le front brûlant de Claire. Ce fut comme une rosée bienfaisante. Il sembla que ces larmes, venues du cœur de Philippe, fussent un filtre souverain. Les traits de la jeune femme se détendirent. Elle soupira doucement, se souleva avec peine sur le côté pour écouter. Philippe sanglotait dans l'ombre, sans contrainte, auprès de cet être sans pensée. Une main se posa sur la sienne et en même temps la voix faible de la malade murmura « Qui donc pleure auprès de moi? Est-ce toi, mère? Le maître de forge releva la tête et vit les yeux de Claire dirigés de son côté. Il s'approcha. La jeune femme le reconnut. Une ombre douloureuse passa sur son front, comme si elle se souvenait. Une larme brilla dans ses yeux agrandis, étendant la main vers l'homme qu'elle avait tant fait souffrir. « Oh, c'est vous, dit-elle, toujours vous, généreuse et dévouée. Oh, pardon, Philippe, pardon !» Le maître de forge tomba à genoux et baisa passionnément ses yeux qui, pour la première fois, l'avaient regardé sans colère. La jeune femme sourit tristement, puis une contraction douloureuse rendit à son visage sa terrible dureté, et le délire s'emparant d'elle, de nouveau, elle se mit à balbutier des mots sans suite. Depuis 3 semaines, elle était entre la vie et la mort. Cette crise fut la dernière. À partir de cette nuit, la maladie entra dans une phase nouvelle. L'agitation violente fit place à un engourdissement invincible. « Période comateuse, dit le médecin avec tranquillité. Nous avons fait jusqu'ici tout ce que nous avons pu pour endormir Madame d'Herblay. Maintenant, nous allons faire tout ce que nous pourrons pour la réveiller. » Philippe comprit bien que Claire, sauf rechute ou complication nouvelle, était sauvée. Mais avec l'espérance qu'elle vivrait, le grave souci de régler son existence lui vint. Tant que la jeune femme avait été en danger, il n'avait pensé qu'à la disputer à la mort. Maintenant, il allait falloir la disputer à la vie. Claire, retrouvant sa raison, allait, bien probablement, retrouver ses répugnances. Dans l'abattement de la maladie, elle avait pu s'attendrir, avoir un instant de faiblesse et demander pardon. Rentrée en possession d'elle-même, se montrerait-elle encore humble et soumise? Philippe avait appris à connaître le caractère altier de sa femme. Il redouta quelque retour de son intraitable orgueil. Il trembla à la pensée qu'elle pût croire qu'il était décidé à profiter de sa convalescence pour rompre le pacte qu'ils avaient fait dans cette affreuse nuit de noces. S'il paraissait manquer de dignité en revenant sur les engagements pris par lui-même et de son propre mouvement, il pouvait déchoir aux yeux de Claire et pour toujours. La rigueur lui parut donc nécessaire, et avec la force de caractère qu'il possédait, il était certain qu'il ne s'en départirait point. Il s'était juré à lui-même de briser l'orgueil de sa femme. Il se prépara à tenir son serment. On était en janvier. L'hiver avait été rude. Le travail de l'usine, suspendu en partie pendant la période aiguë de la maladie de Claire, avait repris son activité. Le bruit des marteaux sonnant sur les enclumes égaya la jeune femme. Sa longue convalescence fut très douce. Elle se reprit à vivre avec délices. Elle éprouva une joie profonde à fixer ses yeux sur tout ce qui l'entourait. La grande chambre sévère et un peu sombre, avec ses panneaux en vieille tapisserie et ses meubles anciens, lui plut beaucoup. Tout y était calme, harmonieux et reposé. Devant son lit, sur la tenture, une nymphe aux cheveux dénoués laissait couler d'une urne qu'elle portait sur l'épaule une eau qui se répandait dans la plaine et formait un fleuve. Il lui sembla que cette belle figure formait une allégorie et que de son urne complaisamment penchée, elle lui versait la vie. Par les larges fenêtres, elle voyait les arbres du parc, encore couverts de neige, étinceler au soleil. Les oiseaux venaient battre de l'aile contre la vitre, comme pour demander asile. Elle les regardait avec plaisir et leur fit jeter du pain. Elle s'intéressa à tout. La force lui revenait peu à peu, et elle éprouva de vives jouissances à se sentir renaître physiquement et moralement. Elle se trouva bien dans sa maison. Elle s'allongeait paresseusement dans son lit, restant des heures à écouter le tic-tac de la pendule, sans une idée dans la tête, perdue dans un vide exquis. Elle passait toutes ses journées en tête-à-tête avec la marquise. Philippe, maintenant, ne venait plus que 2 fois, dans la journée et le soir. Il s'informait soigneusement de sa santé, lui demandait s'il pouvait lui procurer quelque chose qui lui fît envie. Et, après être resté 5 minutes assis au pied du lit, il s'éloignait gravement. Et elle écoutait son pas qui se perdait dans le lointain des appartements. Elle attendait ses visites, les trouvait trop courtes et commençait à s'irriter légèrement contre lui. Elle trouva une occasion de se fâcher et en profita avec un laisser-aller d'enfant. Elle eut la fantaisie d'avoir des fleurs dans sa chambre. Les serres de Beaulieu en étaient pleines. La marquise arriva un jour, les bras chargés d'une botte de lilas blanc admirable. Philippe se présenta sur ses entrefaites et trouva en Claire respirant les tiges odorantes. Il fit doucement observer que le parfum des fleurs pouvait faire beaucoup de mal à la jeune femme et, prenant le bouquet, il se disposa à l'emporter dans le salon. « Mais je vous assure que je me sens très bien !» dit alors Claire avec vivacité. « Vous pourriez parfaitement me laisser ces fleurs !»« Vous êtes comme toutes les convalescentes, » répondit Philippe en souriant. « Vous vous exagérez vos forces. Mais il faut que nous ayons de la raison pour vous. »«
Je vais tout à fait bien puisque vous vous risquez à me contrarier !» reprit la jeune femme avec une moue pleine de coquetterie. « Quand j'étais vraiment malade, vous étiez tout autre. »
Philippe devint aussitôt très grave et sans répondre, il jeta à Claire un regard triste et sévère. La jeune femme poussa un soupir et, d'une voix altérée,
« Vous avez raison, dit-elle, emportez ces fleurs, je vous remercie. »
Ce jour-là, elle fut pensive. Peu à peu, elle retrouvait la force de réfléchir. Et, dans son cerveau raffermi, le souvenir du passé revenait. Elle prit sur elle de s'interroger. Elle fut étonnée de ne plus trouver dans son cœur la moindre trace de son amour pour le duc. Comme un mauvais fruit, sa tendresse était tombée. Elle n'avait pas de haine non plus contre Athénaïs. Elle la plaignait, la devinant destinée à souffrir d'une incurable envie. Elle ne s'informa pas du mariage. Elle le supposa accompli. On évitait avec soin autour d'elle de prononcer le nom de Bligny. Précaution inutile, elle l'eût entendu sans émotion. Son cœur avait fait peau neuve. Sa convalescence fut très longue. Quand elle voulut se lever pour la première fois, elle s'évanouit et il fallut la recoucher. Philippe, anxieux, reparut à son chevet et recommença à la soigner avec le même dévouement impassible et silencieux. Elle souffrait toujours du front. Il semblait qu'elle eût quelques désordres persistants dans les méninges. Quand elle agitait la tête, elle disait qu'elle sentait sa cervelle remuer douloureusement, comme le battant d'un grelot.
« J'étais déjà un peu folle avant ma maladie, » ajoutait-elle en souriant. « Que sera-ce maintenant ?»
Il y avait juste 5 mois qu'elle était mariée, quand, par une belle journée d'avril, elle put descendre dans le jardin, soutenue par sa mère et par l'excellente Brigitte. Elle fit lentement le tour de la pièce d'eau, s'arrêtant de temps en temps pour reprendre des forces sur les bancs de pierre chauffés par le soleil. En la voyant marcher ainsi à petits pas sur le sable du parterre, il aurait été impossible de reconnaître la fière et orgueilleuse jeune fille de laquelle sa mère disait « C'est un garçon manqué ». Ses traits s'étaient fondus et adoucis, ses yeux brillaient plus doux. Elle s'était féminisée et n'ayant plus le même port de tête superbe et altier, elle semblait plus petite. À partir de ce jour, l'attitude de Philippe ne changea plus. Doux, aimable et prévenant pour Claire en présence d'étrangers, il se montrait froid, poli et grave quand ils étaient seuls. Sa conduite fut si habilement calculée que dans son entourage, il passa pour un mari modèle. La marquise n'eut pas le moindre soupçon. Elle était habituée à la galanterie calme et correcte des époux de son monde. Et d'ailleurs, le marquis de Beaulieu ne l'avait pas gâtée par ses effusions. Elle trouva donc que le ménage de sa fille allait à merveille et se tint quitte de toute surveillance. Complètement rassurée sur la santé de Claire, elle annonça un beau matin qu'elle partait pour Paris, où son fils Octave, depuis le mois de janvier, était installé. Fidèle à ses théories égalitaires, le jeune marquis se disposait à jeter son blason aux orties et à se faire une bonne clientèle d'avocat. Claire resta donc en tête-à-tête avec son mari. Elle le vit juste à l'heure des repas. Après avoir dîné, il la conduisait au salon, s'asseyait 5 minutes, puis se levait, lui disait bonsoir et se retirait dans son cabinet. Elle eut un soir la curiosité de voir ce qu'il y faisait. Et du dehors, dans la nuit, bien couverte d'un manteau, elle l'épia. Elle vit sur le rideau de la fenêtre éclairée passer et repasser son ombre, à laquelle le jeu de la lumière donnait une hauteur gigantesque. Il marchait de long en large sans s'arrêter, lentement, comme pensif. Claire rentra dans le château et gagna sur la pointe des pieds la pièce voisine du cabinet de travail. Elle s'assit dans l'obscurité, regarda la raie de lumière qui passait sous la porte et écouta les pas réguliers de Philippe foulant sourdement l'épais tapis. Il marcha ainsi jusqu'à minuit. Puis, quand les dernières vibrations de la sonnerie se furent perdues dans le silence,
Elle l'entendit ouvrir la porte de sa chambre et la raie de lumière disparut. À quoi songeait-il ainsi pendant cette marche prolongée et presque inconsciente? Quelle pensée l'absorbait pendant ces longues heures solitaires? Claire eût donné beaucoup pour le savoir. Ayant un désir, elle n'était pas femme à se contenir longtemps, et un soir que Philippe prenait congé d'elle comme d'habitude, « Que faites-vous donc ? » lui dit-elle. « Seule, enfermée, si avant dans la nuit. » « Je règle des comptes arriérés, » répondit tranquillement le maître des forges. « Et tenez, justement, j'ai de l'argent à vous remettre. » En parlant ainsi, il tirait de sa poche une liasse de billets de banque. « De l'argent ? » fit Claire avec étonnement. « À moi ? » ?»« Les revenus de votre fortune pendant 6 mois. » Et Philippe, posant l'argent sur la table, ajouta froidement « Veuillez vérifier, je vous prie, si le compte est exact. » Claire fit un pas en arrière. Un flot de sang lui monta au visage et, le cœur serré, la main tremblante, « Reprenez, monsieur, » s'écria-t-elle, « reprenez, je vous en prie, je ne dois pas accepter cet argent. » « Il faut cependant que vous le preniez, » dit le maître de forge, et d'un geste dédaigneux, il poussa les billets vers la jeune femme. Celle-ci se redressa, prête à lutter. Le geste et l'accent de Philippe l'avaient froissée jusqu'au plus profond d'elle-même. Ses yeux étincelèrent. En un instant, elle redevint l'orgueilleuse et violente Claire d'autrefois. « Je ne veux pas !» commença-t-elle en fixant audacieusement son mari. « Vous ne voulez pas ? » répéta-t-il avec une sourde ironie. Leurs regards se croisèrent. Et celui de Philippe était si ferme, si droit et si puissant que la jeune femme ne put le soutenir. Sa résistance se détendit soudainement, sa main fièrement levée retomba, et vaincue, elle garda un douloureux silence. Le maître de forge s'inclina silencieusement et sortit. Pour la première fois, Claire heurtait sa volonté à celle de Philippe. Elle sortit de ce choc, étourdie et brisée. Elle fut forcée de reconnaître la supériorité du caractère de son mari, et elle en éprouva une irritation mêlée de joie. Elle conçut pour lui une profonde estime, et très attirée par cette nature énergique, elle se mit à l'étudier attentivement. Dans l'expansion de son retour à la vie, elle avait résolu d'être bonne et d'accorder une franche amitié à Philippe. Elle constata avec dépit qu'elle était décidée à accorder plus qu'on ne lui demandait. Quand elle était prête à aller jusqu'à l'amitié, son mari s'en tenait à l'indifférence. Il ne boudait pas. S'il avait boudé, il y aurait eu de la ressource. Il ne s'occupait pas du tout d'elle, la laissant vivre à sa guise, comme elle l'avait demandé, et lui montrant une froideur glaciale. Claire, humiliée de cette inattention un peu dédaigneuse, s'ingénia à la combattre. Elle était essentiellement militante. Il lui fallait toujours une difficulté à vaincre. Quand Bachelin venait dîner à Pont-Aven, Philippe passait la soirée au salon. La jeune femme invita le notaire 2 fois par semaine, régulièrement. Elle se mit à jouer au whist et fit le mort comme une douairière. Devant Bachelin, le maître de forge causa, joua, mais le convive parti redevint sévère et silencieux. Malgré ses efforts, la jeune femme ne gagna rien sur la volonté de son mari. La puissance de Philippe sur lui-même exaspéra Claire. Seule dans sa chambre, elle se laissa aller à de violentes colères. Elle frémissait de se sentir dominée. Cet homme était son maître. Il la menait comme il lui plaisait. Et quand elle essayait de se révolter, d'un regard, il savait la faire rentrer dans l'obéissance. Elle le vit froid et dur comme le fer qui travaillait. Il martelait le caractère de la jeune femme et il était évident qu'il pourrait, à son gré, lui donner la forme qui lui plairait. Claire pleura de honte en constatant son impuissance. Un dernier reste d'orgueil lui permit de cacher ses tourments à Philippe. Elle se montra alors telle qu'elle devait être, résignée sans amertume et digne sans raideur. Cependant, si elle était indifférente à ce qui se passait loin de Pont-Aven, ceux des siens qui étaient à Paris ne lui permettaient point d'oublier. La baronne, depuis qu'elle savait son amie revenue à la santé, lui écrivait, avec une passion intermittente, des lettres pleines de détails incohérents mais curieux. Par elle, Claire eut des nouvelles du duc, de la duchesse et de M. Moulinet. Athénaïs avait fait son entrée dans le monde avec un éclat tapageur. Elle avait généralement plu aux hommes, mais elle avait déchaîné contre elle toutes les femmes par ses allures libres et garçonnières. Le duc ne faisait du reste aucune attention à elle. 3 mois après son mariage, il passait pour être séparé de sa femme autant qu'il est possible de l'être. Il rendait des soins à la belle comtesse de Canaleil, une Irlandaise aux yeux bleus, profonds et troublants comme la mer. Quant à la duchesse, elle flirtait avec une demi-douzaine de jeunes élégants, à bandeaux frisés et à plastrons irréprochables, sans lesquels on ne la voyait nulle part. Elle appelait cette petite phalange de galants son attelage à 6. Elle le conduisait d'une main sûre, sans risquer de verser jamais. La sécheresse de son cœur et la pauvreté de son tempérament la mettaient d'ailleurs à l'abri d'une surprise. Moulinet, lui, depuis qu'il était débarrassé de sa fille, semblait mûrir des projets considérables. Il avait pris un secrétaire et s'enfermait tous les jours pendant plusieurs heures dans une belle pièce de son appartement, baptisée par lui bibliothèque, quoiqu'elle ne contînt pas le moindre livre. Il y avait porté, sur une grande table bureau, un traité d'économie politique. Et sa fille prétendait que, de 2 à 5, il s'endormait dessus avec conscience. La baronne assurait que l'ancien juge au tribunal de commerce devait préparer quelques candidatures. On l'avait rencontré, disait-elle, avec des gens de médiocre apparence qui ne pouvaient être que des journalistes. Enfin, il avait fait plusieurs voyages dans le Jura. Il bâtissait une école laïque dans sa commune et, secrètement, il faisait restaurer l'église. De la main gauche, il caressait les radicaux et de la droite, il flattait les conservateurs. Ce fabricant de chocolat se montrait machiavélique. La vérité était que M. Moulinet, sur le tas, s'était senti mordre par l'ambition. Il avait pensé qu'ayant si bien dirigé ses affaires, il excellerait à diriger celles des autres. Et il s'était demandé si à la Chambre, il y avait un seul homme qui pût appuyer une situation politique sur une fortune plus considérable que la sienne. Il s'était avoué franchement à lui-même que non. Et ayant payé à sa fille, un mari, tout ce qu'il y avait de mieux, il ne crut pas devoir hésiter à se payer à lui-même un mandat électoral. Il hésita quelque temps entre le Sénat et la Chambre. Sénateur, ce titre lui paraissait très majestueux. Il avait conservé une sorte de fétichisme pour ce corps, composé autrefois des hommes les plus éminents du pays. Mais d'un autre côté, député ne sonnait point mal. Et la Chambre lui semblait plus vive, plus remuante. Avec un sens très fin, il comprit qu'il y trouverait assez de gens médiocres pour qu'il lui fût facile de devenir promptement un homme important. Et il commença sa campagne, décidé à ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer son succès. C'était pour poser ses premiers jalons qu'il était allé à la Varenne. Son arrondissement était proche de celui de Besançon et de celui de Pont-Aven. L'influence de M. d'Herblay devait être grande dans le pays. Il résolut de se la concilier. Il alla visiter le maître de forge et, très madré, se fit patelin et bonhomme. Il ne donna pas un mot de ses projets, annonça son retour au château pour la saison d'été et trouva moyen de faire croire à Claire qu'il était plus naïf que mal intentionné et que, dans l'affaire du mariage, il n'avait été que l'agent inconscient d'Athénaïs. En même temps, Moulinet fondait à Besançon un journal à 1 sou intitulé « Le courrier jurassien » et destiné à soutenir sa candidature. Le rédacteur en chef était un des individus de médiocre apparence qu'on avait rencontré avec l'ancien juge de commerce. Il avait pris le plus présentable. Et celui-ci, lui ayant offert un lot de convictions politiques à choisir, Moulinet s'était arrêté à une bonne petite opinion républicaine flottant entre le centre-gauche et le centre-droit. Assez foncé pour les exaltés, assez clair pour les timides. Quelque chose comme les paroles de la Marseillaise sur l'air de la reine Hortense. Du reste, la couleur de sa candidature l'inquiétait peu au fond. Comme argument décisif, il comptait sur son sac et il n'avait pas tort. Les projets de M. Moulinet mécontentèrent extrêmement le duc de Bligny. Celui-ci pensa que son beau-père, ayant su gagner une si belle fortune, ne devait plus avoir d'autre occupation que de l'en faire jouir. Il s'en ouvrit à lui avec cette familiarité légèrement impertinente qui était le ton habituel de sa conversation avec l'ancien juge au tribunal de commerce. « Quelle mouche vous pique de vous lancer dans la politique !» lui dit-il. « Ne trouvez-vous pas que nos affaires vont assez mal ?» Singulière rage qu'ont les gens tranquilles d'aller se fourrer bénévolement dans des bagarres. Savez-vous que les électeurs seront peut-être assez bêtes pour vous nommer ? Mais, mon cher duc, j'y compte bien. Nous verrons ce qu'il vous en coûtera. Que vous importe ? Il m'importe beaucoup. J'ai épousé une fille unique, et voilà que vous lui donnez une sœur. Une sœur ? Certainement, une sœur, la politique. Et une sœur qui aura beaucoup d'enfants. Tous vos courtiers, agents, aides, protecteurs, défenseurs, sans compter les électeurs qui vont tous vous gruger à l'envi, et Dieu sait où ça s'arrêtera. Moulinet fit un geste majestueux et, frappant sur son gousset, par une habitude déplorable dont il ne put jamais se défaire, « Mon gendre, mes moyens me permettent toutes les fantaisies. Je n'ai que la soixantaine, je pourrais entretenir des danseuses. » Je ne vous en ferai pas un crime. Au moins, voilà des folies que je comprends. Un petit pied, une jolie jambe, une taille ronde, emprisonnée dans le cercle d'or des Égyptiennes du ballet de Fosse, et des yeux noirs ou bleus qui vous cherchent au fauteuil d'orchestre, parfait. La chose en vaut la peine. Si vous voulez que je vous présente au foyer de la danse, je vous y présenterai. Mais tourner des déclarations, offrir des bouquets et faire des rentes à Marianne... Monsieur Moulinet, vous m'affligez sérieusement. « Voyons, laissez-vous plutôt aller aux danseuses. »« Désolé, mon cher duc, mais j'ai des mœurs. Je préfère la politique. »« Grand bien vous fasse. Quand vous serez nommé, parlerez-vous ?»« C'est fort probable. »« Ce sera très gai. J'irai vous entendre et j'y mènerai des amis. Mais tâchez de ne pas devenir ministre. Vous finiriez par me compromettre. » Moulinet dédaigna le persiflage de son gendre et poursuivit l'exécution de ses plans. Il alla, au commencement du printemps, s'installer à la Varenne et commença à travailler la matière électorale. La marquise était, à peu près, à la même époque, revenue à Beaulieu, et Suzanne avait été retirée du couvent par son frère. Claire n'avait point été étrangère à cet événement. La jeune fille apporta un peu d'animation dans la maison et elle détendit, en apparence, les rapports des époux. Philippe dut jouer la comédie devant Suzanne et se montrer tendre pour sa femme. Il s'acquitta parfaitement de cette tâche et ne fit pas naître le moindre soupçon dans l'esprit candide de la jeune fille. Celle-ci crut son frère parfaitement heureux. Elle ne reconnaissait pas Claire. La fière et sombre mademoiselle de Beaulieu était devenue simple et souriante. Suzanne aima passionnément sa belle-sœur. Elle trouvait en elle une affection prévoyante et douce qui était à la fois d'une mère et d'une amie. La jeunesse de Claire, comprimée un instant par les inquiétudes, les soucis et le chagrin, repartait vigoureuse comme la sève d'un arbre. Les deux sœurs ne se quittèrent pas. Suzanne avait recommencé, dès sa rentrée à Pont-Aven, ses tournées dans les maisons des ouvriers. Claire l'accompagna partout comme une fée bienfaisante. Elle prit sans scrupule l'argent que Philippe lui avait remis et en usa pour le soulagement des malheureux. On les rencontrait toutes deux à pied par les chemins de Pont-Aven, simplement vêtues, abritées sous leurs larges ombrelles, suivies du grand griffon roux de Philippe, et tout le monde se découvrait sur leur passage. En quelques mois, Claire devint l'idole de cette population ouvrière. On s'était beaucoup occupé d'elle dans les chaumières au moment de son mariage. Les ouvriers de Pont-Aven la connaissaient bien. Ils avaient vu, autrefois, passer à cheval, indifférente, absorbée, pensant au duc et touchant distraitement son chapeau à long voile du pommeau de sa cravache quand on la saluait. On la disait fière, et dans leur langage familier et un peu malveillant, les ouvriers l'appelaient la marquise comme sa mère. Étant devenue madame d'Herblay, elle restait la marquise. À tous ces hommes, elle semblait être d'une race supérieure. Elle était si blanche, si fine, si élégante, même avec sa robe de laine, de couleur sombre, que dans les rues boueuses de Pont-Aven ou sur le seuil des Masures, elle apparaissait comme une jeune souveraine. Mais on l'adorait. Octave, au mois de juillet, était arrivé à Beaulieu, et alors les parties avaient commencé. Suzanne faisait atteler un petit panier que Claire conduisait très habilement elle-même. Le marquis suivait à cheval, et c'était dans les bois de Pont-Aven des promenades délicieuses. Sous la voûte sombre des grands arbres, dans la fraîcheur des herbes, ils allaient lentement. La voiture suivait, en penchant, les ornières profondes creusées par les charrettes des marchands de bois qui exploitaient les coupes de l'année. Quelquefois, il fallait descendre. Octave poussait le panier, tandis que Suzanne tenait le cheval par la tête. et la jument de sel du jeune homme suivait Claire comme un mouton, la regardant de son grand œil humide et tendant le cou vers elle comme pour demander le morceau de sucre accoutumé. C'était d'heureuses journées. Claire oubliait sa tristesse. Mais le soir, quand elle se retrouvait seule dans sa grande chambre, elle avait de profonds découragements. Elle avait brisé sa vie et sans ressources. Elle connaissait maintenant assez Philippe pour comprendre qu'il ne reviendrait jamais à elle. Il était fidèle à la convention conclue entre eux. Il lui avait rendu sa liberté et il la lui laissait tout entière. Avec quelle joie elle la lui aurait sacrifiée. Fougueuse et altière, elle avait eu affaire à plus fort qu'elle. Et elle éprouvait maintenant une âpre jouissance à se sentir dominée. Un homme était venu qui lui avait mis la main sur l'épaule et l'avait courbée. C'était celui-là qu'elle aimait, par cela même qui lui avait fait sentir le poids de sa volonté. Il était son maître. Dans les longues heures qu'elle passait seule, elle se reprocha amèrement de n'avoir pas, autrefois, su discerner quel être supérieur était celui qu'elle allait épouser. Elle voyait maintenant combien était grande sa situation dans le pays. Elle découvrait chaque jour, avec étonnement, une des sources nombreuses de la fortune du maître de forge. Elle ignorait totalement, avant la rentrée de Suzanne à Pont-Aven, l'existence des forges du Nivernais. Elle interrogea alors adroitement sa belle-sœur et apprit avec surprise que son mari était en passe de devenir un des princes de l'industrie, cette force dominante du siècle. Elle eut honte d'elle-même. C'était à un pareil homme qu'elle avait offert sa fortune comme un dédommagement du mal qu'elle lui faisait. Qu'était sa fortune confondue dans les vastes capitaux du maître de forge? Une goutte d'eau perdue dans un lac. Elle sentit combien son orgueil avait été à la fois odieux et ridicule. Elle jugea que Philippe devait la mépriser et elle en éprouva un violent chagrin. Elle sut le cacher cependant, suivant en cela l'exemple que son mari donnait, avec une force d'âme admirable. Pourtant, la tendresse qu'elle avait pour Philippe se trahissait malgré elle dans de petits détails. Elle l'accueillait avec une joie qui éclatait sur son visage, elle n'avait de regard que pour lui et s'ingéniait à faire tout ce qui pouvait lui plaire. Suzanne lui était précieuse pour ses épanchements. Un jour que, sur la terrasse, la jeune fille, après le déjeuner, s'était amusée à passer doucement un brin de folle avoine sur le cou de sa belle-sœur, celle-ci la saisit par-dessus son épaule et l'attira vers elle. Philippe dégustait une tasse de café de l'air le plus indifférent, suivant des yeux le vol des martinets qui se poursuivaient dans le ciel bleu avec des cris aigus. Claire avait pris la tête de la jeune fille entre ses mains et la regardait avec des yeux attendris. Elle poussa un soupir et posant doucement ses lèvres sur les boucles légères qui frisaient sur le front de Suzanne. « Cher enfant, murmura-t-elle, comme tu ressembles à ton frère !» Philippe avait entendu. Il tressaillit. Jamais rien de si direct n'avait jailli du cœur de Claire vers le sien. Il resta un instant immobile, puis, sans prononcer une parole, il s'éloigna. Madame d'Herblay essuya une larme qui perlait dans ses yeux. Suzanne se jeta sur elle avec une furie d'affection. « Vous pleurez ?» lui dit-elle. « Vous pleurez ? Qu'avez-vous ? Oh, parlez ! Vous savez combien je vous aime ! Philippe, vous aurait-il fait de la peine ? Ce serait sans le vouloir, et il suffirait de lui dire un mot. Voulez-vous que je le lui dise ?»« Non, » répondit vivement Claire en s'efforçant de sourire. « Je suis un peu énervée. Philippe est parfait pour moi, et je suis bien heureuse. » ajouta-t-elle sérieusement en regardant Suzanne comme pour faire entrer plus profondément cette conviction dans l'esprit de la jeune fille. Puis, se levant, « Allons faire un tour, » dit-elle gaiement. Et elles allèrent dans le parc, courant comme deux folles et riant comme s'il ne se fût rien passé. Ce fut un des derniers jours relativement heureux de Claire. Le lendemain, le duc et la duchesse de Bligny arrivèrent à la Varenne. L'annonce de leur présence mécontenta la jeune femme. Elle espérait ne plus jamais les revoir. Elle remarqua que Philippe l'observait avec plus d'attention. Elle s'efforça de se faire un visage immuablement calme. Le soir même, Philippe, après que Suzanne se fût retirée, aborda la discussion des relations à établir avec les habitants de la Varenne. « Le duc de Bligny est votre plus proche parent après votre frère, » dit-il d'une voix tranquille. Aucune rupture apparente n'a eu lieu entre lui et votre famille. Vous vous êtes même appliqué à maintenir les bons rapports au moment de notre mariage. Je ne pense pas qu'il serait habile aujourd'hui de modifier cette façon d'agir. Si le duc et la duchesse de Bligny se présentent ici, je suis d'avis qu'il faut les recevoir comme vos parents, c'est-à-dire de notre mieux. Si nous ne les accueillons pas, nous nous exposons à des commentaires que je désire éviter. Cependant, je ne prétends pas vous imposer ma manière de voir. Vous êtes plus intéressé que qui que ce soit dans la question. Dites-moi quels sont vos désirs, je m'y conformerai. » Claire resta un instant silencieuse. L'intervention nouvelle du duc et d'Athénaïs dans sa vie lui parut devoir être le signal des plus grands dangers. Elle eut l'instinct que le malheur complet, irrémédiable, entrerait avec eux dans sa maison. Elle fut sur le point de parler, d'ouvrir son cœur, de demander grâce peut-être. Elle n'osa point et, aveuglément, accepta tout ce qu'avait résolu Philippe. « Il faut les bien accueillir, vous avez raison, dit-elle, et je vous remercie de vous imposer cette contrainte. La présence du duc me sera aussi pénible qu'à vous. Je vous prie de n'en pas douter. » Philippe fit un signe de tête qui ne voulait dire ni oui ni non, et la conversation en resta là.